Bonjour et bienvenue au 26e épisode de Litteramour avec Sigrid Brinkmann et l'écrivaine Anne Berest. Anne Berest a fondé une revue de théâtre avant ses débuts de romancière. Elle a tourné dans des films, a coécrit le scénario de la série télévisée à succès Me Too et a travaillé avec sa sœur, l'écrivaine Claire Berest, sur l'histoire de son arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia. Gabrielle Buffet était compositrice et critique d'art, l'épouse du peintre Francis Picabia, la maîtresse de Marcel Duchamp, une amie proche d'Igor Stravinsky et de nombreux autres artistes de la première moitié du XXe siècle. En 1942, elle a sauvé la vie de la grand-mère d'Anne Berest en la faisant passer clandestinement dans le coffre de sa voiture dans la zone encore non occupée. Le 6 janvier 2003, la mère de Anne Berest a trouvé dans la boîte aux lettres une carte postale. D'une écriture maladroite, quelqu'un avait noté les noms Ephraim, Emma, Noémie, Jacques, rien d'autre. Anne Berest n'a pas posé de questions à sa mère à l'époque et la carte postale a disparu dans un tiroir. La grand-mère de Anne Berest, Myriam, était la seule de sa famille à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale. Enfant, l'auteur avait souvent capté le regard absent de sa grand-mère. Pendant longtemps, elle n'a pas pu mesurer ce que signifiait être juive. Sa mère et sa grand-mère n'ont jamais dit un mot sur la vie de ses ancêtres venus de Russie, immigrés en France fin des années 1920 via la Lettonie et la Palestine. En 2018, il s'est pourtant passé quelque chose qui allait briser le silence sur les origines et le destin des membres de la famille. Dans la carte postale, Anne Berest reconstitue et imagine la vie de ses ancêtres. Son roman est une quête initiatique qui va forger une identité. Anne Berest nous lit le début de son livre.
Ma mère a allumé la première cigarette de la journée, sa préférée, celle qui brûle les poumons au réveil. Puis elle est sortie de chez elle pour admirer la blancheur qui recouvrait tout le quartier. Il était tombé dans la nuit au moins 10 cm de neige. Elle est restée longtemps à fumer dehors, malgré le froid. Pour profiter de l'atmosphère irréelle qui flottait sur son jardin, elle a trouvé que c'était beau, tout ce rien, cet effacement de la couleur et des lignes. Soudain, elle a entendu un bruit étouffé par la neige. Le facteur venait de faire tomber le courrier par terre, au pied de la boîte aux lettres. Ma mère est allée le ramasser en faisant bien attention de regarder où elle posait ses chaussons pour ne pas glisser. Toujours sa clope au bec, dont la fumée se décuplait dans l'air glacé, elle s'est dépêchée de rentrer dans la maison, réchauffer ses doigts, engourdis par le froid. Elle a jeté un coup d'œil rapide aux différentes enveloppes. Il y avait les traditionnelles cartes de vœux, la plupart de ses étudiants de la fac, une facture de gaz, quelques publicités. Il y avait aussi des lettres de mon père. Les collègues du CNRS et ses thésards lui souhaitaient tous la bonne année. Parmi le courrier, très ordinaire en ce début de mois de janvier, elle était là, la carte postale. Glissée entre les enveloppes, l'air de rien, comme si elle s'était cachée pour passer inaperçue. Ce qui a tout de suite intrigué ma mère, c'était l'écriture. Étrange, maladroite, une écriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis elle a lu les quatre prénoms, écrit les uns en dessous des autres sous forme de liste. Ephraim, Emma, Noémie, Jacques. Ces quatre prénoms, c'étaient ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle. Tous les quatre avaient été déportés 2 ans avant sa naissance. Ils étaient morts à Auschwitz en 1942. Et il ressurgissait dans notre boîte aux lettres 61 ans plus tard, ce lundi 6 janvier 2003.
Merci pour la lecture du début du roman. Quelques lignes plus tard, dans cet avant-propos, vous, Anne Berest, vous notez que vous vous fichiez de la carte postale, mais que la liste des noms attirait votre attention. Et en 2003, vous saviez très peu de la vie de vos ancêtres. Pourquoi a-t-il fallu attendre encore bien des années jusqu'à ce que vous entamiez un vrai travail de recherche sur les origines et le sort de vos arrière-grands-pères, grands-parents et leurs enfants?
En fait, en 2003, lorsque j'ai reçu la carte postale, j'avais 24 ans. J'étais très jeune. Et c'est un âge où on regarde l'avenir. Ce qui nous intéresse, c'est le futur. Quelle personne on va devenir, quelle femme je vais être, quel métier je vais avoir. Et donc, c'est un âge où on est entièrement pris par l'idée de l'avenir et on s'intéresse très peu au passé, ce qui est normal. C'est très sain que la jeunesse soit précipitée vers l'avenir. Et puis, on vieillit et il arrive un moment de sa vie où on commence à se demander d'où l'on vient. Et où soudain, le passé vous semble plus mystérieux que l'avenir. Et où vous allez chercher, dans ce qui vous a précédé, des réponses, des questionnements, ou tout simplement une très grande curiosité. Donc c'est pour ça qu'en 2003, lorsque j'ai reçu la carte postale, je ne m'y suis pas intéressée. Il a fallu des années pour que j'aie envie de m'y pencher.
Et qu'est-ce qui a déclenché le moment où vous avez décidé d'écrire un roman vrai ?
Alors, je vais distinguer deux choses. Le moment où je décide de rechercher l'auteur de la carte postale et le moment où je décide d'en faire un livre. Je vais décider de chercher l'auteur de la carte postale le jour où ma fille, rentrant de l'école, demande à ma mère « Est-ce que tu es juive, grand-mère ?» Ma mère lui dit « Oui. » Et alors elle demande à ma mère « Mais alors est-ce que ça veut dire que maman est juive ?» Alors ma mère lui dit « Oui, ça se transmet par la mère, c'est comme ça. » Et alors ma fille lui dit « Donc ça veut dire que moi je suis juive ?» Et ma fille, qui a 6 ans à l'époque, fait une étrange tête. Et ma mère lui demande ce qui se passe. Et ma fille lui répond « C'est parce qu'on n'aime pas trop les juifs à l'école. » Donc ma mère était très choquée. Elle m'appelle le soir même et elle me dit « Il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. Il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu ailles voir le directeur de l'école, la maîtresse. Il faut que tu comprennes. » Pourquoi il y a eu des remarques antisémites dans la cour des enfants. Mais moi, à ce moment-là, je suis incapable de régler ce problème. Je suis même incapable de demander à ma fille ce qui s'est passé à l'école. À la place, me vient en mémoire la carte postale, à laquelle je n'avais pas pensé depuis 15 ans. Alors, les psychanalystes appellent cela un évitement d'obstacles. C'est quand votre cerveau ne veut pas résoudre un problème, alors il se crée un autre problème. Moi, je ne voulais pas résoudre le problème qui s'était passé à l'école avec ma fille, parce que ce problème me terrifiait. Donc, j'ai créé un autre problème très difficile qui était trouver l'auteur de la carte postale. Et donc j'ai commencé à chercher, mais je ne pensais pas du tout à écrire un livre là-dessus. C'était ma vie. Je n'écris pas en général sur ma vie. J'écris sur des choses, d'autres choses. Donc je commence l'enquête, et un jour, avec ma mère, nous allons voir un détective privé. Dans le roman, je vais voir ce détective toute seule. Mais dans la vraie vie, j'y suis allée avec ma mère. Et ce détective privé, ce rendez-vous avec ce détective privé, est tellement drôle. Parce qu'il ressemble à un détective privé comme dans les films.
Comme un cliché.
Un vrai cliché. Je suis en face d'un Colombo avec l'accent du sud-ouest. Et on sort de là avec ma mère et on rigole et on est tellement contente d'avoir vécu ce moment très drôle. Et alors là, je me suis dit, mais en fait, j'ai tous les éléments d'un polar, j'ai tous les éléments d'un roman policier. J'ai un détective privé, j'avais contacté un graphologue qui s'appelle Jésus, J'avais cette carte mystérieuse, j'avais tout était là. Et alors je me suis dit, ben voilà, je vais commencer à prendre des notes. Et je vais écrire l'histoire vraie de cette enquête. Et j'ai commencé donc à travailler, mais contrairement à un auteur de roman policier, je ne connaissais pas la fin de mon livre. Et je ne savais même pas si j'allais trouver une fin à mon livre, si j'allais avoir la résolution. Donc c'était très angoissant.
Ce fait se transmet complètement en lisant. Je trouve que ça nous accompagne, les lecteurs, les lectrices, tout le temps. Et ça fait... C'est très très bien de garder cette tension qui était la vôtre. Oui. On vous suit tout complètement. Donc c'est un roman qui est largement autobiographique. Vous utilisez les noms de personnes qui existent vraiment et dont vous recherchez les traces de vie. La première partie raconte la vie quotidienne de vos arrière-grands-parents et leurs enfants. Il y a les dialogues, les réflexions qui sont imaginées, forcément. Dans d'autres chapitres, vous nous emmenez à des endroits où les membres de votre famille ont vécu. On apprend les doutes, les craintes, le malaise aussi, la nervosité, l'excitation quand un nouveau document est trouvé. Et vous arrivez vraiment à nous faire sentir, de vous accompagner. Pour vous-même, quel était le défi le plus grand en tant que narratrice qui était toujours personnellement impliquée d'organiser tout ce matériel? Parce que c'est énorme, c'est quand même un gros livre.
Ce livre, souvent, je me suis dit que je n'allais pas réussir à l'écrire. Que c'était comme un costume trop grand pour moi, comme une montagne à gravir et je n'allais jamais y arriver. J'ai eu vraiment des moments de désespoir où je pensais que c'était trop difficile. Ce qui a été le plus dur à trouver, c'est la structure. Parce qu'il y a deux chronologies. Il y a la chronologie contemporaine, qui est l'enquête, comme le roman policier. Et puis, il y a la chronologie passée, qui est comme une saga historique, familiale.
Oui, ça fait 100 ans. Voilà. C'est tout un siècle.
Et donc, ces deux chronologies, c'était très compliqué. Et j'ai essayé tellement de possibilités, de structures possibles. Mais il faut savoir que j'ai coupé 250 pages du livre. Le livre faisait 750 pages. J'ai coupé pour rendre le récit plus fluide, pour que le lecteur ne s'y perde pas. C'était très difficile.
J'avais dit qu'on parcourt tout un siècle avec vous. Vous racontez l'histoire de vos ancêtres, le passage de Moscou à Riga, puis l'émigration en Palestine, en passant par Lodz en Pologne, puis leur vie en France, entre les deux guerres, la déportation des 4 personnes mentionnées sur la carte postale, la vie en cachette de Myriam, la résistance, le temps de l'attente du retour, des chairs, et puis le temps de l'après-guerre et notre présent. Moi, je trouve que c'est très, très touchant de lire comment Nachman, le patriarche de la famille Rabinovitch, avait compris que ses enfants seraient en danger s'ils restaient en Russie ou en Europe. C'est très touchant de voir à quel point Ephraim, son fils, désirait obtenir la nationalité française. Et c'est choquant d'apprendre que l'administration française niait toute responsabilité. Et vous dites que des déportés, l'administration disait d'abord qu'ils n'étaient pas retournés, ensuite qu'ils avaient disparu, et puis qu'ils étaient morts sur le sol français. Donc l'administration française fixait la date officielle de leur mort. Elle décrétait que ce soit le jour du départ des trains en direction d'Auschwitz. Et ce sont des faits qui font très mal. Est-ce que vous en voulez à la classe politique et à la société d'avoir longtemps toléré et peut-être voulu que les Juifs ne soient pas reconnus en tant que victimes?
Alors, moi, je n'en veux pas à cette classe politique parce que je suis née bien après. J'ai découvert que la France avait mis du temps à reconnaître la responsabilité de la déportation des Juifs de France. Moi, j'ai grandi dans une France qui était en train de faire son devoir de mémoire, c'est-à-dire fin des années 80 et années 90. Donc je suis adolescente à ce moment-là. Hein, il faut se dire que, pour donner des dates repères, Shoah de Lanzmann, c'est en 85-86, ça va déclencher quelque chose. Et le discours d'un président de la République qui dit officiellement que la France a été responsable, c'est 1995 avec Jacques Chirac. Et puis ensuite, il y a à la fin des années 90, à la suite de ce discours, la mise en place de commissions comme la commission Matteoli qui va permettre aux familles juives de demander une réparation. Donc moi, je suis adolescente dans une France qui fait ce travail. Donc, je n'ai pas la sensation à ce moment-là que ce travail arrive après 50 ans. Parce que moi, je n'étais pas là pendant ces 50 ans. Mais c'est en discutant avec ma mère que je comprends que tout ce qui est arrivé très tard. Et que le discours de Jacques Chirac en 1995, c'est 50 ans après la fin de la guerre. Et qu'il a fallu 50 ans pour que la France reconnaisse sa responsabilité. Donc c'est vraiment en écrivant ce livre que j'ai pris la mesure du malaise français vis-à-vis des Juifs de son territoire. Ceci étant dit, est-ce que, par exemple, ma mère en a voulu à l'État français? C'est difficile de répondre à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une sensation très désagréable. Pour elle, une forme de déni et de refus de la France, de regarder les choses. Voilà, je dirais que c'était plus désagréable que provoquant une colère chez elle.
Il faut aussi parler de la lignée paternelle. Votre arrière-grand-père, Francis Picabia, apparaît comme un égocentrique qui refuse d'assumer son rôle de père, sa responsabilité. Gabrielle, votre arrière-grand-mère, s'intéresse pas trop pour les quatre enfants, mais pendant la guerre, elle joint la résistance. Et avec sa fille Jeanne, elle sauve la vie à Myriam, votre grand-mère, en la transportant en zone libre, ensemble avec l'artiste allemand Hans Arp, qui va joindre sa femme dans la zone libre, et tous deux cachés dans le coffre de la voiture. Ce que je trouve aussi touchant, ce sont les filiations que vous avez reconnues, qu'il y avait Noémie, la sœur de votre grand-mère qui voulait être écrivain, qui était très bon élève, qui faisait ses études, et que Anne, vous et Claire, vous êtes devenues écrivaine.
En effet, ce personnage de Noémie, qui est la jeune femme qu'on voit sur la couverture du livre, elle a 19 ans sur cette photographie. Cette photographie a été prise quelques semaines avant sa déportation et avant son assassinat. Et donc, Noémie rêvait d'être écrivain. Et elle avait commencé à écrire des poèmes, pièces de théâtre, romans. Elle tenait son journal intime. Mais tout ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert en faisant mon enquête, en écrivant sur elle, en retrouvant les papiers. Et ça m'a beaucoup troublée de me dire qu'il y avait dans ma famille cette jeune femme qui voulait être écrivaine et qui a été assassinée, et qu'au fond, une génération après, deux générations après, ma sœur et moi devenons écrivaines, comme si nous devions reprendre le fil d'une écriture qui s'était arrêtée. Et ça m'a beaucoup émue. Et j'ai pensé alors à l'idée que tous ces gens qui ont été assassinés, tous ces êtres, on a aussi tué en eux les livres qu'ils auraient dû écrire, les peintures qu'ils auraient dû peindre, les musiques qu'ils auraient dû composer. C'est-à-dire qu'au fond, avec la Shoah, c'est toute une histoire de l'art qui a aussi été assassinée. Et je crois que si nous, la troisième génération, nous avons une telle soif de création et d'écriture, et de si nous sommes si attirés par les métiers artistiques, c'est peut-être qu'au fond, nous rêvons inconsciemment de réparer ce manque.
Ce qui est très beau, puisqu'il y a aussi un échange de lettres entre vous et votre mère, mais aussi entre vous et votre sœur. Et on comprend vite qu'il n'y a pas de rivalité entre les sœurs. Il y a cette belle phrase où vous citez Claire qui considère que c'est vous, Anne, qui trouve des solutions. Donc il y a toujours aussi... Enfin, qui trouve des solutions et qui a dû écrire ce livre. Elle admet ça.
Oui. C'est vrai que donc, ma sœur et moi, nous sommes toutes les deux écrivaines, ce qui est assez rare dans une fratrie. Et nous avons le même écart d'âge que ma grand-mère avait avec sa sœur. Donc il y a là, comme ça, des fratries qui se retrouvent comme des miroirs. Et c'est difficile d'avoir des frères et sœurs. Pour tout le monde, c'est difficile. C'est difficile de partager le regard des parents. C'est difficile d'accepter que l'autre est parfois peut-être plus aimé, mieux aimé. Mais en même temps, ce lien de fratrie, de sororité, il est absolument extraordinaire. Il est merveilleux. Et moi, j'ai écrit avec ma sœur un livre et c'est la plus belle chose que j'ai faite, la plus enthousiasmante, la plus joyeuse, d'écrire comme quand on jouait, quand on était enfant, de retrouver cette joie enfantine du jeu. Et donc c'est pour ça que je voulais qu'elle soit présente dans le livre, et c'est pour ça que je lui ai demandé si elle acceptait que je reproduise un échange épistolaire entre elle et moi.
Est-ce que toute la recherche de vos origines familiales et le fait de passer des années à écrire ce roman, est-ce que cela a changé votre vie?
Oui, bien sûr. Il faut que un livre vous change. Si vous écrivez un livre et que vous êtes la même personne avant et après avoir écrit le livre, c'était pas la peine de l'écrire. Un livre doit vous transformer. Et ce livre, évidemment, très particulier dans ma vie, il m'a transformée à beaucoup d'endroits. Mais je dirais que il m'a transformée, peut-être de façon la plus saillante ou la plus visible, dans mon rapport au judaïsme, puisque avant d'écrire ce livre, je n'osais pas dire « je suis juive », parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire pour moi. J'étais mal à l'aise avec cette affirmation. Ce livre est comme un parcours initiatique, et comme une quête de sens autour de ce mot « juif ». Et aujourd'hui, je peux dire que je suis juive, et pourquoi je le suis, et ce que cela signifie pour moi. Donc oui, ça fait une grande différence.
Vous dites que vous avez eu besoin, ou mis 40 ans pour pouvoir résumer votre identité en disant « je suis la fille et la petite fille de survivants ». J'ai beaucoup aimé aussi la lettre que vous adressez à Déborah, qui était une amie d'un compagnon et qui vous provoque tout le long d'un dîner de Pessah.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé comment vous décrivez le malaise autour de la table et la réponse tardive pour lui dire qu'elle n'a pas le droit de juger et de dire, de décréter qu'il est juif ou assez bon juif ou non. Ouais.
Dans le livre, il y a deux dîners de Pessah. Un dîner en 1919, en Russie, et un dîner 100 ans plus tard, à Paris. Et c'est très important, ces deux dîners de Pessah, parce que Pessah est une fête, donc c'est la Pâque juive. C'est la célébration du départ de Moïse d'Égypte pour aller fonder le peuple. Et donc, pendant ces deux soirées, dans le livre, les gens se posent des questions. Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on est en danger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'était important pour moi de construire le livre autour de ces deux soirées. Et dans la soirée contemporaine, en effet, il y a une part de comédie, puisque il y a cette femme qui est en rivalité avec moi et qui me provoque tout le temps, parce que moi, je ne sais pas faire les gestes de la cérémonie. Je ne sais pas comment on lit la Haggadah, alors je la lis à l'envers. Je ne sais pas ce qu'il faut faire autour de la table. Je ne connais pas les rituels juifs, parce que je n'ai pas été élevée dans la religion juive. Et donc cette femme, qui est en rivalité amoureuse, en profite pour dire « Ah, mais en fait, tu n'es pas une vraie juive. » Et ça me blesse énormément. Mais ça me blesse, et en même temps, c'est ce qui va m'obliger à réfléchir et à me poser la question « Mais puisque je ne suis pas religieuse, puisque je ne sais pas lire la Haggadah, puisque je ne sais pas comment on fait un seder, pourquoi alors je suis juive ?» Et donc c'est ce qui va provoquer une réflexion très précise et profonde sur l'essence de ma judéité. Donc cette femme qui m'a provoquée, elle m'a blessée, mais elle m'a fait avancer.
La carte postale de Anne Berest est un chef-d'œuvre de narration biographique et une ample recherche documentaire qui a aidé à construire une identité. Nicolas Denis est une des meilleures traductrices de littérature française. En 2022, elle a également fait ses débuts en tant qu'auteure. Mon prochain podcast sera consacré à son travail de passeuse entre les langues et à son roman « Les Tantes ». Je lui ai demandé son coup de cœur actuel.
Alors oui, j'aimerais présenter un livre d'une jeune autrice que je viens de traduire et qui va paraître en allemand sous peu. Adèle Rosenfeld, « Les méduses n'ont pas d'oreilles » chez Grasset en France. Un livre sur une protagoniste malentendante, Louise, et qui réfléchit au cours du livre effectivement à la question est-ce qu'elle se fait implanter ou pas pour regagner de l'audition, parce qu'elle la perd au fur et à mesure. Et donc on comprend qu'il n'y a pas que des avantages effectivement à mieux entendre, qu'il y a aussi des sens qui se développent plus quand on entend mal ou moins bien, comme la vue évidemment, parce qu'il faut qu'elle lise sur les lèvres, donc elle a des stratégies assez incroyables pour pouvoir le faire ou ne pas le faire quand il y a des luminosités qui changent. mais aussi les odeurs qui sont beaucoup plus fortes quand l'oreille est affaiblie. Donc, on rentre dans ce cosmos-là, dans cette compréhension de la faiblesse, mais aussi de la force qui va avec ça. Et c'est aussi un livre qui joue énormément avec la langue, avec le fait de mal entendre ou d'entendre à côté, qui a un côté très ludique aussi par rapport à la langue. Donc parfois, il y a des passages où j'étais obligée de demander à Adèle Rosenfeld ce qu'elle mettait derrière, parce que c'est une espèce d'écriture phonétique de ce qui arrive chez elle et qui parfois est dans la pure absurdité, mais parfois c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre quand on sait qu'elle lit sur les lèvres. Donc c'est un équilibre assez difficile à trouver, mais c'est très enrichissant pour la traductrice aussi.
Le premier roman d'Adèle Rosenfeld, traduit en allemand par Nicolas Denis, figure sur la long list du prix Première. Ce prix récompense les premières publications d'auteurs francophones et leurs traducteurs. La shortlist de 3 titres de livres sera annoncée en octobre par l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. Et c'était le 26e épisode de Litteramour avec Sigrid Brinkmann. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires et surtout à partager le podcast s'il vous a plu. Je vous souhaite de belles lectures et me réjouis de vous retrouver.